Au gré du temps. Passent les jours, passent les semaines, les souvenirs nous reviennent. Passent les saisons, restent les chansons. À vous tous à l'écoute, ici Armand Dubois. Bienvenue à cette émission de la série Destination Bonheur pour partager avec nous au gré du temps quelques souvenirs, des confidences et pourquoi pas des petites recettes de bonheur. Nous accueillons aujourd'hui un avocat qui n'a pas toujours la toge et qui a su plaider la cause de l'environnement et celle de la bonne humeur au sein des médias, Maître Louis-Paul Allard. Bonjour, Maître Allard.
Bonjour, Maître Armand.
Votre admission au barreau du Québec remonte à 1974.
Oui.
Mais j'évoquais cette présence au sein des médias. Je pense que ce goût de la radio vous est venu dès vos années d'université.
Ah ben oui, je dirais même avant, parce que j'écoutais la radio chez nous quand on était à la maison. À l'époque, il n'y avait pas de télé. Hein. On écoutait la radio. Alors, j'étais tous les matins agrippé au barreau de la radio. C'était une radio immense.
Le barreau de la radio.
Le barreau de la radio. Voilà ce qui m'a amené à faire des choses et des compromis. Alors, j'écoutais la radio, puis la radio, pour moi, c'était fascinant. Alors, au fil des ans, bon, ça s'est développé. Et puis, j'ai toujours été lié au domaine des communications. Ma sœur écrivait chez Miville à l'époque. Alors, on écoutait chez Miville à la radio.
Et il y avait chez Miville, mais il y avait aussi tous ces radioromans qui étaient très présents.
Oui,
à la radio.
Jeunesse dorée, les joyeux troubadours et tout ça. On rentrait de l'école, on écoutait ça. Donc, la radio, pour moi, ça a été tellement imprégnant. Et j'ai toujours été associé à la radio. Et de Guy Moffett, on en parlera un peu plus tard aussi, pour dire qu'est-ce qui m'a amené à la radio, qu'est-ce qui m'a amené dans ces moyens de communication-là. Mais j'ai toujours été associé à la radio d'abord.
Je disais dès l'université parce que vous avez fait de la radio étudiante.
Oui, j'ai fondé Radio Université à l'Université de Sherbrooke et il n'y avait rien à l'époque là, dans ce domaine-là. Et puis j'ai dit, bon, ben pourquoi que l'université, qui est une ville en soi, n'aurait pas au moins à l'époque une antenne pour dire aux gens qu'est-ce qui se passe sur le campus, et ça s'appelait « Autour de l'Agora ».
De quoi discutions-nous dans une radio étudiante dans les années 70?
On discutait pas de grand-chose, dans le fond. On était plus babillard. On disait, bon, telle chose va se passer telle semaine, tout ça. Mais moi, j'étais producteur des spectacles sur le campus de l'université. Donc, j'avais dans ma voiture Jacques Brel, j'avais Fernandel et son fils, j'avais Philippe Clé, j'avais tous ces gens-là dans ma voiture et je faisais des entrevues avec ces gens-là. J'en passais un bout dans l'émission de Radio Université. Et bien sûr, tous les postes à l'époque, CHLT, tout ça, étaient intéressés d'avoir ces gens-là. Donc, je les refilais. Mais moi, c'était ce petit bout-là que je faisais. J'ai encore des entrevues chez nous de Jacques Brel qui n'ont jamais été diffusées nulle part, des choses comme ça.
C'est étonnant ce que vous racontez, des artistes quand même d'envergure. Vous évoquez Brel. Qu'un artiste comme Brel décide d'aller faire de la radio dans une université, aller vous rencontrer, c'est déjà un exploit en soi.
Oui, mais Brel venait faire son spectacle à l'université. Et moi, j'en profitais parce que je lui disais, écoutez, d'abord, j'étais l'impresario aussi de ces gens-là. Alors, je disais, écoutez, donnez-moi un petit 15-20 minutes, on va pouvoir parler, s'échanger. Puis oui. Puis je faisais des questionnaires à l'époque qui étaient comme « Quel est votre livre préféré? » Alors Brel me répondait « Le désert des Tartares » de Dino Buzzati. Non, mais j'ai ça. C'était quand même quelque chose à l'époque.
Tout
là.
À fait.
Puis les Fernandel, père et fils, Philippe Clé, je les avais. Mais à l'époque, on ne réalisait pas quelle importance que ça avait d'avoir ces gens-là autour de soi. Le professeur Guillemin, bon, qui était...
Henri Guillemin.
Oui. Ben oui, bon. Et Henri Guillemin... qui n'était pas facile à vendre pour une salle. Alors, j'avais troqué deux Aznavour pour un Guillemin. Et Guillemin, à Sherbrooke, à l'époque, c'était pas facile de vendre une salle de 1500 places. Alors là, j'ai dit, oui, je vais m'occuper de ça. J'ai mis ça au programme scolaire de tous les collèges, de tout ça, et tous les collèges sont venus remplir la salle. C'était intéressant, mais il fallait quand même vendre Henri Guillemin, à cette époque-là, dans une grande salle d'université.
Et c'était une période très effervescente. Ah, au niveau des chansonniers, vous évoquez des noms, mais il y en avait plein.
C'était plein. Et je m'occupais de la boîte à chansons d'université, et puis on avait Lee Gagnon, qui était un grand jazzman. J'ai étudié, mais j'avais pas des notes fortes. Mais j'ai réussi, mais j'étais dispersé. C'était un peu le
votre
vie.
Plus beau souvenir d'entrevue de cette époque?
Le plus beau souvenir d'entrevue de cette époque, je pense que c'est Jacques Brel. Parce que les autres ont été faits un peu à la course, tout ça, mais Brel a pris le temps. Brel a vraiment pris le temps. J'ai un beau 20 minutes chez moi d'entrevue de Brel qui n'a jamais été diffusé nulle part. Et ça, quand j'ai appris, par exemple, je reviens là-dessus, Le désert des Tartares de Dino Buzzati, il m'a révélé des choses. Qu'est-ce qu'il craignait le plus? C'était la sénescence, l'âge, la vieillesse. Des choses, il se confiait. J'en revenais pas. Je lui posais des questions. Je lui dis, il arrivera jamais rien au bout de ça. Pas du tout, il se livrait comme un homme extraordinaire.
Est-ce qu'on est conscient, à cet âge-là, on est en plein dans les études supérieures, qu'on est en face de quelqu'un qui deviendra éventuellement un monument de la chanson?
Non, on ne l'est pas. À l'époque, je dois vous dire que, comme tous les jeunes, on pense que le monde est à nous et que ces moments-là ne sont pas privilégiés. C'est un moment comme un autre et ça va passer. À moins que des gens qui seraient vraiment en avance de leur temps disent « Ah, ce moment-là, il faut que je le capte, il va valoir des sous, il va valoir des émotions dans... » Non, je pense, en tout cas, dans mon cas, ça ne l'est pas, là, je ne suis pas prétentieux. Moi, je l'ai fait en fonction du temps présent, du temps que j'avais. Il y a des gens qui m'ont refusé des entrevues, des Québécois qui m'ont refusé des entrevues à l'époque. Mais ces grands artistes-là ont été là, présents, et ça, je l'ai pris comme... Je ne sais même pas si je l'ai apprécié vraiment. Je l'apprécie maintenant. Mais à l'époque, c'était comme, il veut pas, elle veut pas, c'était ça.
J'espère qu'un jour, nous pourrons entendre cette entrevue inédite que vous avez faite avec Brel à cette époque.
Je l'ai chez moi.
Brel, qui a été un grand ami de Brassens. Mmh. Brassens, pour vous, a une signification?
Ah, Brassens, c'est le mien, ça. Brassens... Il y a deux personnes dans ma vie que j'aurais aimé rencontrer, là, je vous le dis, c'est Georges Brassens et Fidel Castro.
Pourquoi?
Ben, parce que ce sont deux personnes qui donnent énormément. J'ai rencontré Ramon Castro, le frère. J'ai déjeuné chez lui à Cuba. Mais ce sont deux personnes qui donnent énormément. Ce sont des gens que les gens soupçonnent d'être des profiteurs. Ce sont des grands donneurs. Et des batteurs, des gens exceptionnels. Vous savez que Castro, s'il n'avait pas eu cette pression américaine, il aurait réussi encore davantage avec son peuple, mais il a réussi avec son peuple. L'éducation, la santé, les compétences athlétiques, musicales et tout, il l'a fait malgré les Américains. Quand on réussit quelque chose malgré les Américains, c'est parce qu'on est super fort et qu'on est quelque part ailleurs chercher des valeurs. Brassens a toujours été un défenseur aussi des gens pauvres, des gens démunis, des animaux battus, des arbres qu'on abat. C'est quelqu'un qui a été au-delà de son temps par ses messages, par ses chansons et, bien sûr, par sa sensibilité.
Il l'a eu dur aussi, parfois. Il a composé cette chanson que vous connaissez fort bien et que vous nous avez choisie.
L'Auvergnat. Chanson pour l'Auvergnat. Quel gros sens du partage. Je ne l'ai pas fait chanter par lui parce que tout le monde la connaît et on finit par plus l'écouter parce qu'on suit le rythme de Brassens. Mais écoutez les paroles. La sensibilité, elle est à toi, cette chanson, qui m'a donné un peu de pain, qui m'a donné un peu de feu. Quand tout le monde riait de moi, quand tout le monde ne s'occupait pas de moi, ça, c'est le plus beau sens du partage dans une époque où on est dans l'indifférence totale. Il faut revenir à ces base de partage que Brassens a toujours eu. On l'a critiqué, on l'a appelé le pornographe des chansons, mais on ne l'a pas connu parce que quand on écoute Brassens, d'un bout à l'autre, j'aurais fait l'émission entièrement sur Brassens parce que son sens du partage est exceptionnel.
Juliette Gréco, la chanson de l'Auvergnat.
Oui.
Elle est à toi, cette chanson. Toi, l'Auvergnat, qui sans façon m'a donné quatre bouts de bois quand dans ma vie il faisait froid. Toi qui m'as donné du feu quand les croquantes et les croquants, tous les gens bien intentionnés m'avaient fermé la porte au nez. Ce n'était rien qu'un peu de bois, mais il m'avait chauffer le corps, et dans mon âme il brûle encore à la manière d'un feu de joie. Toi l'Auvergnat, quand tu mourras, quand le croque-mort t'emportera, qu'il te conduise à travers le ciel au Père éternel. Elle est à toi, cette chanson. Toi, l'hôtesse qui, sans façon, m'a donné quatre bouts de pain quand dans ma vie il faisait faim. Toi qui m'ouvris ta huche quand les croquantes et les croquants, tous les gens bien intentionnés s'amusaient à me voir jeûner. Ce n'était rien qu'un peu de pain, mais il m'avait chauffé le corps, et dans mon âme il brûle encore à la manière d'un grand festin. Toi l'hôtesse, quand tu mourras, quand le croque-mort t'emportera, qu'il te conduise à travers le ciel au Père éternel. Elle est à toi, cette chanson, toi l'étranger qui sans façon, d'un air malheureux m'a souri lorsque les gendarmes m'ont pris. Toi qui n'as pas applaudi quand les croquantes et les croquants, tous les gens bien intentionnés riaient de me voir amener. Ce n'était rien qu'un peu de miel, mais il m'avait chauffé le corps, et dans mon âme il brûle encore à la manière d'un grand soleil. Toi l'étranger, quand tu mourras, quand le croque-mort t'emportera, qu'il te conduise à travers le ciel, où Père éternel.
Vous écoutez Au gré du temps de la série Destination Bonheur, où nous recevons aujourd'hui Maître Louis-Paul Allard. Ce côté moins connu de votre carrière, celui d'avocat, vous a même amené à la vice-présidence de la Commission des services juridiques du Québec en 1993, si on parlait de cet organisme.
D'abord, je dois dire que j'ai été un des fondateurs de l'aide juridique au Québec. J'étais à l'époque à TM, Télémétropole, ben, c'est ça, Canal 10.
Et, que nous avons bien connu.
C'est ça, que nous avons bien connu dans un autre siècle. Et je travaillais à l'occasion avec Lisette Gervais,
qui était,
c'est ça, avec Mario Verdun, puis tout ça. Alors, je travaillais avec ces gens-là. Et puis, tout à coup, je reçois un appel du mari de Lisette qui était le juge Robert Sauvé. Bon, et ils me font venir à un restaurant que je peux nommer au Pickwick, chez Jean Caillé, avec Pierre B. Meunier, qui était le vice-président à l'époque. Et ils m'ont dit, Louis-Paul, on aimerait ça que tu t'en viennes chez nous. On met l'aide juridique au monde. On a besoin de quelqu'un qui va s'occuper des communications, de l'information. T'es avocat, t'as une formation juridique. On aimerait ça que tu viennes chez nous.
Et vous parlez d'information. Vous avez été, durant ces années d'ailleurs, je pense préalablement, reporter au Canal 10.
Ah ben oui, j'étais reporter au Canal 10. J'ai fait le choc des idées, j'ai fait la crise d'octobre, j'ai fait tout ça au Canal 10 à l'époque. Mais bon, alors c'est un moment de ma vie là qui a changé, qui m'a amené avec le juge Chauvet et Pierre B. Meunier à fonder l'aide juridique. À l'époque, il n'y avait pas d'avocat engagé, il n'y avait rien là. Alors, ils m'ont dit, tu t'occupes de l'information, des communications, puis tout ça, tu mets ça au monde. Je dis, parfait. On était trois dans le bureau, c'est pas compliqué. Alors, j'ai dit, ben oui, ça m'intéresse. Puis j'ai dit, j'ai le goût de faire ça. Alors, c'est là que je suis entré à la commission du service juridique. On a engagé les premiers avocats, il n'y en avait pas. Et aujourd'hui, ceux qu'on a engagés sont presque tous juges ou ils sont ailleurs, mais ils ont fait des belles carrières. Alors, on a lancé ça. Et puis là, on m'a dit, ben oui, mais il faut faire connaître l'aide juridique. J'ai dit, oui, ils vont faire connaître l'aide juridique. Alors, j'ai fait la minute juridique à la radio, sur 100 quelques postes de radio pendant des années.
Plusieurs années.
J'ai fait Justice pour tous pendant 20 ans à la télé, tout ça. J'ai fait La Loi et vous. Mais j'avais une belle base. J'avais fait ma formation juridique, mon stage chez Alban Flamand, qui était à l'époque le grand communicateur de droit.
Oui.
Et vous vous souvenez, ça s'appelait « C'est la vie ».
Tout à fait.
Il disait toujours « Si j'ai bien compris, là, jusqu'ici, c'est pas trop compliqué. »
Oui. Alban Flamand qui avait aussi son émission avec le maire Drapeau à une certaine époque.
C'est ça. Puis l'opinion d'Alban Flamand, voilà. Tout ça. Mais c'était un vulgarisateur de droit. Et Alban m'avait pris un peu en amitié, sous son aile. J'ai fait mon stage chez lui. Et puis il me disait « Louis-Paul, je te vois aller. » Faut que tu sois dans ce milieu-là, tu es à l'aise, puis vas-y, puis fonce. Et puis j'ai fait ça. Alors j'ai été précurseur dans le domaine du droit, du côté des communications et de l'information.
Mais pourquoi à ce moment-là? Parce que vous sentiez le besoin de venir en aide des gens qui n'avaient pas les moyens de pouvoir se défendre?
Ça a toujours été un peu ma vie, ça. Mais à l'époque, c'est vrai. Et je me battais, je vais vous dire, le barreau ne m'aimait pas du tout. Hein. Parce qu'on dit, on ne peut pas faire la minute juridique. On ne peut pas faire dans une minute, expliquer aux gens dans une minute ce qui se passe dans la vie. Mais je dis, écoutez, on n'a pas fait 4 ans de droit. Si on n'est pas capable de donner quelques petits conseils au monde d'une minute puis qu'ils vont être dépannés. Expliquer c'est quoi le papier jaune, le subpoena. Le papier jaune. Les gens, ben niaiseux d'expliquer ça au monde, le papier jaune. Mais le papier jaune, les gens ne savaient pas ce que c'était à l'époque. Mm-hmm. Fallait leur dire c'est quoi. Alors, fallu reprendre ça à la base. Puis je l'ai fait sans prétention. Puis Justice pour tous, ça a été la même chose. On a eu des comédiens. Puis on a mis ça à l'approche des gens le plus simplement possible pour qu'ils comprennent c'est quoi le droit. C'est pas le droit, c'est quoi la loi. On dit nul n'est censé ignorer la loi, mais personne n'explique aux gens c'est quoi.
Louis-Paul, alors, on a l'impression qu'aujourd'hui, ce travail de dépoussiérage que vous avez fait est un peu retombé en poussière parce qu'il me semble qu'il n'y a pas...
Il
n'y
a plus rien qui se passe.
C'est le constat que vous faites aussi?
Ah ben oui, je regarde la loi de l'aide juridique, l'article 22, là, c'est comme à peu près zéro open bar. L'aide juridique, quand est-ce qu'ils ont parlé de l'information juridique? Comptez-moi ça, là, depuis que je suis parti, je ne sais pas parce que je suis parti, là, mais il ne se passe rien, c'est zéro.
Ça vous attriste?
Ben ça m'attriste beaucoup parce que c'est le rôle premier de l'aide juridique, pas seulement de donner des services, mais de donner des conseils pour éviter aux gens d'aller avoir recours aux services. Ah non, non, l'aide juridique, je dois vous dire, c'est une grande tristesse. En tout cas, de mon côté, à moi, je ne dis pas que les services rendus sont pas bons, mais je dis que la période ou la vocation d'information et d'éducation, c'est zéro.
Le besoin est cependant encore très présent.
Plus que jamais. Plus que jamais, les lois se compliquent, les règlements se multiplient. C'est épouvantable. Tout le monde y perd son latin. On parle même pas de l'exemple de la chatte qui perd c'est épouvantable ce que l'on vit actuellement dans la multiplication de règlements, de lois et d'accélération de ces processus-là que les gens sont pas capables de suivre.
Avez-vous l'impression, devant ce constat, de vivre dans une société qui manque un peu de cohésion?
Une société qui manque de cohésion, oui, ça c'est sûr, à tous les points de vue. Sauf que c'est sûr que c'est pas facile non plus, comme gouvernement, de suivre tous les changements qui arrivent. Mais il reste qu'un organisme qui est voué à tel genre de défense de droits des personnes doit s'occuper de gérer ça de façon à être efficace. Puis s'ils sont pas capables de demander de l'aide, de le faire. Bon, du côté de la santé, c'est sûr que on explose de tous les côtés, mais même à ça, on devrait être en mesure de pouvoir aider les gens de façon plus efficace. Vous savez, quand on parle de la privatisation puis des soins, tout ça, je regarde l'argument des syndicats, c'est plutôt le plancher d'emploi qu'on surveille que les soins des personnes qu'on veut protéger. Vous savez, moi, les planchers d'emploi, là, dans mon livre à moi, c'est pas important. J'aime mieux que les gens aient des bons soins puis que les planchers d'emploi soient diminués. S'ils aillent au privé, les gens qui travaillent puis qui donnent un bon service, c'est ça l'essentiel.
Donc, animé constamment par les valeurs de justice.
Absolument.
On ne vous tirera peut-être pas une larme sur ce manque de cohésion, mais on va parler d'une pièce qui, pour vous, a une signification profonde.
Profonde. C'est une pièce que je trouve exceptionnelle, en tous les cas, musicalement parlant, et puis de la façon dont c'est livré aussi. C'est une furtiva lagrima, l'Elisir d'amore. Et c'est Gaetano Donizetti, qui n'est pas tellement, tellement connu, mais cette pièce-là, elle a fait couler des larmes, elle a touché des gens, et elle est aussi une pièce qui va chercher quelqu'un qui a besoin d'encadrement, qui a besoin de soutien, qui a besoin de support. Et c'est une très belle pièce chantée par Placido Domingo.
Yes. Sur